I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
L'Entertainment Lab by Newton Studio, c'est le podcast 100% Brain Entertainment. Créatifs, responsables de marque, directeurs de plateformes technologiques, Pure Players Entertainment et Communicants 3.0 nous partagent leur point de vue sur l'avenir des marques et du divertissement à l'ère digitale. Ce podcast est animé par Alexis Ferber.
Bonjour à tous, je suis ravi d'accueillir Simon Bernard, qui est le PDG et cofondateur de Plastic Odyssey. Bonjour Simon.
Bonjour.
Alors aujourd'hui, j'ai un invité très spécifique qui vient du monde de la marine et qui a monté un très beau projet. Tu peux nous dire d'où c'était venu à la base cette passion de la navigation et comment tu es arrivé à Plastic Odyssey?
J'ai toujours grandi au bord de l'eau, j'ai grandi à Concarneau, en Bretagne. Et j'ai fait l'école de la marine marchande pour devenir officier sur des bateaux, des porte-containers, des ferries. Donc j'ai navigué comme ça quelques années et j'ai rejoint le milieu des expéditions maritimes avec Nomade des Mers, Corentin de Châtel-Perron, qui partait faire le tour du monde pour, à la recherche des low-tech. Et c'est en faisant escale avec lui à Dakar, dans une des anses les plus polluées, que je me suis dit, bon, il y a vraiment du plastique partout, il faut faire quelque chose. Et c'est de là, cette prise de conscience-là, qu'est né le projet Plastic Odyssey.
Génial. Tu avais quel âge quand c'est arrivé Dakar, cette étape
Et j'avais 25 ans. 25 ans.
24-25 ans. Et là, c'était très traumatisant. Enfin, tu peux raconter ce spectacle qui t'a beaucoup marqué
Alors en fait, moi, je voulais être inventeur quand j'étais petit. J'ai toujours aimé réfléchir à des solutions, des systèmes. Donc je me suis dit, bon, il y a du plastique, mais je savais qu'il y avait de la pollution. Mais c'est surtout... J'ai vu des gens qui avaient une ingéniosité incroyable, parce qu'à Dakar, on peut recycler des canettes d'alu pour en faire des casseroles, on peut à peu près tout recycler. Mmh. Et je me suis dit plutôt, j'ai été marqué par l'ingéniosité qu'il y avait.
D'accord.
Et par tout ce plastique qui finalement pouvait être une opportunité. Mmh. Parce que ça a de la valeur, ça peut être transformé, donc ça peut créer des économies locales. Et c'est plutôt vers cet axe solution, c'est l'axe solution qui m'a plu, plutôt
D'accord.
que se dire... oh, c'est mal, il y a du plastique.
D'accord. Si tu t'es dit, là, il y a une vraie manière de convertir ça en une opportunité et d'agir différemment. D'ailleurs, dans la pollution, le plastique, c'est un des plus graves avec le... Bon, il y a aussi, évidemment, tout ce qui est pétrolier, mais tu peux faire un peu de tuto sur les problèmes de pollution. On peut en parler pour les mers, parce que c'est ce qui touche directement nos océans.
Tout est lié. L'océan, en fait, on ne le sait pas trop, mais c'est quand même le premier poumon de la planète.
Mm-hmm. Que les arbres, d'ailleurs.
Ouais, un peu plus que les arbres, quasiment la moitié, on va dire. Hein. Mm-hmm. Une respiration sur deux, on dit, parce que le plancton, finalement, a produit de l'oxygène et continue de produire de l'oxygène. Et cet océan-là est beaucoup pollué. Alors, pollué par le plastique, ça c'est ce qui est visible, et encore pas trop parce que la majorité du plastique coule, mais on va retrouver énormément de pollution chimique, ce qu'on appelle l'eutrophisation, donc tous les engrais, les produits chimiques qui polluent énormément. Le CO2, l'océan capte le CO2 de l'atmosphère, c'est ça acidifie l'océan, et donc ça détruit les écosystèmes. Mmh. Donc on retrouve beaucoup de pollution, la pollution sonore aussi, des bateaux qui a un impact, énormément de pollution qui ne sont pas visibles. Et le plastique est, on va dire, une bonne porte d'entrée pour s'attaquer à toutes les pollutions et montrer que l'océan doit être protégé.
Le plastique jeté par tout type d'être humain sur cette planète, donc il y a un vrai sujet d'évangélisation. Et donc ça t'amène à Plastic Odyssey, donc j'aime bien le terme puisque moi je suis un fan du film L'Odyssée de l'espace. Je ne sais pas si tu aimes ce film de Stanley Kubrick.
Ouais, complètement. Ouais.
Et donc là c'est plus adapté au monde maritime, on va dire. Mais est-ce que tu peux dire un peu comment est né ce projet et comment vous l'avez fait avancer
Alors ouais, c'est vraiment parti de ce constat en se disant le plastique, on peut en faire plein de choses. On peut en faire des matériaux de construction. On peut en faire du carburant. Mmh. Avec un kilo de plastique, on peut refaire un litre de diesel et d'essence. Donc au lieu d'aller extraire du pétrole encore et brûler ou laisser le plastique dans la nature, on peut déjà le récupérer, le transformer et en faire une ressource locale. Mmh. Donc c'est parti de là en se disant il faut arriver à développer, diffuser des systèmes qui coûtent le moins cher possible et qui permettent de transformer un déchet qui n'a pas de valeur pour en faire un produit qui va pouvoir se vendre et donc permettre à des gens d'en vivre.
D'accord.
Et pour ça, donc, ces solutions-là, elles existent. Il faut quand même les développer, mais il faut surtout les faire connaître. Il faut les partager. Il faut former des entrepreneurs dans le monde entier. Mmh. Donc, on a eu l'idée d'un bateau. D'un bateau qui ne ramasse pas le plastique dans l'océan, parce que malheureusement, il coule, mais qui embarque toutes ces solutions. Donc, on a 150 mètres carrés d'atelier de recyclage. C'est un bateau qui fait 40 mètres.
Il est amarré où ?
Il est à Saint-Nazaire, en chantier. Il ressemble un peu à la Calypso du commandant Cousteau.
Ah oui.
Un plus moderne, mais c'est à peu près la même taille. Et donc, on embarque cet atelier de recyclage.
C'est un de bateau dont vous êtes propriétaire ou locataire ou...
On l'a acheté en 2019 à un armateur. C'était un bateau qui faisait de la recherche océanographique la base.
Ah oui, donc on est sur les traces du commandant, là.
On est un peu sur les traces du commandant en version écolo, on va dire. Mais l'idée, c'est donc de partir pendant 3 ans. Cette année, on va partir en septembre de Marseille pour 3 ans de tour du monde. Et on va faire escale dans les 30 pays les plus pollués par la pollution plastique.
Alors, quels sont-ils ? Tiens, il va être content d'entendre.
Alors, on retrouve quand même le top 1, c'est toute l'Asie du Sud-Est.
D'accord.
Et ensuite, on a l'Afrique et un peu l'Amérique du Sud. Donc, c'est nos 3 continents cibles.
D'accord.
On commence par le Liban, l'Égypte, la Tunisie, le Maroc, et puis on va descendre en Afrique de l'Ouest.
C'est
et
génial,
continuer comme ça pendant 3 ans.
Toi, tu vas embarquer pendant 3 ans ?
Moi, je ne vais pas embarquer pendant 3 ans, je vais y aller de temps en temps. On a un équipage de 8 à 9 marins professionnels qui embarquent tous les 3 mois, donc ils se relaient. On a 2 équipes de 8 personnes qui se relaient pour pouvoir faire naviguer ce bateau. Et puis après, on a des équipes d'ingénieurs, des médiamans qui embarquent. Et l'objectif à chaque escale, c'est pendant 3 semaines d'incuber une dizaine d'entrepreneurs locaux. Dans chaque pays, on invite 10 entrepreneurs, donc 300 au total. Et on les forme sur les machines, on les fait rencontrer des investisseurs locaux, des clients, et on leur donne toutes
c'est
les
génial,
clés finalement pour créer un centre de recyclage.
C'est un sacré projet qui a beaucoup de sens. Et donc concrètement, c'est-à-dire vous arrêtez dans les villes, vous allez identifier les spots où il y a effectivement tout ce plastique, vous le ramenez sur le bateau, vous traitez, et il y a combien de temps de traitement pour recycler derrière ? Comment
Alors,
ça se passe en fait ?
En réalité, on ne traite pas forcément le
D'accord.
plastique. Pourquoi ? Parce que ça n'aurait pas un gros impact avec un bateau. On traiterait quelques tonnes,
ah oui,
mais
oui.
vu l'ampleur
tu
du
vas,
tu
du vas
projet,
monter des antennes locales, un
c'est
peu,
ça.
C'est ça, d'accord.
On démontre, c'est un démonstrateur qui va essaimer. Donc
d'accord.
l'objectif, c'est de faire fleurir plein de centres de recyclage partout dans le monde. Des centres de recyclage qui sont à petite échelle, ça tient dans des containers maritimes. Donc avec un container maritime, on a toutes les machines de recyclage, on peut le poser dans une ville, on appuie sur un bouton et on peut lancer
D'accord.
un centre de
ça
recyclage.
Ça se fait, c'est autonome comme objet, et c'est assez rapide pour traiter.
C'est
une technologie que vous avez développée ?
Ça, c'est ce qu'on développe et ça permet de traiter entre 100 et 1000 tonnes de plastique par an.
D'accord. Et derrière, donc, mettons que tu rentres toutes les bouteilles plastiques, qu'est-ce qui sort à l'arrivée ? Donc, c'est
Il sort, alors on a plusieurs options, entre guillemets. Ouais. Soit on travaille sur des matériaux de construction comme des tuiles pour les toits des maisons, des pavés
pas mal,
pour
ça.
Les revêtements de sol, des choses comme ça qui peuvent avoir une utilité locale.
D'accord.
Ou le carburant pour faire du diesel, de l'essence, alimenter des groupes électrogènes, des bateaux de
D'accord.
pêche.
Et il n'y a pas de commercialisation, c'est plutôt d'utilité publique ou il y a une commercialisation de ces matériaux ?
Alors à terme, on va à mon avis devoir industrialiser ces systèmes parce qu'aujourd'hui, l'objectif à la base c'était de faire de l'open source, donc donner gratuitement les plans des machines, mais on se rend compte qu'il y a un besoin aujourd'hui. Les gens nous demandent où est-ce que
business.
Je peux acheter ça en fait parce que... Donc il y a un vrai besoin business derrière.
Mais qui n'était pas l'idée de départ.
Ce qui n'était pas l'idée de départ, c'est ça a toujours été comment est-ce qu'on fait le plus d'impact. Il s'avère que là, la manière de faire le plus d'impact, c'est de construire, d'industrialiser ces machines pour qu'elles coûtent le moins cher possible. Donc on va faire ça, on va probablement aussi exploiter nos propres centres de recyclage. Donc on va avoir nos propres usines en Afrique qui serviront aussi de centres de formation. Pour les entrepreneurs,
D'accord.
parce qu'on va faire nous-mêmes pour montrer comment faire et permettre à d'autres de répliquer.
Bon, bah alors là, on voit que du point de vue du storytelling, t'es pas mal, puisque nous, on est dans l'Entertainment Lab, donc on aime bien les bonnes histoires. Là, c'est une sacrée histoire. Comment vous avez financé toute cette expédition ? Ça veut dire qu'il y a des mécènes, des sponsors qui sont arrivés. Comment t'y es pris pour toute cette phase ?
Alors, on a le cœur, on va dire, visible, médiatique du projet, qui est ce bateau, cette expédition, qui raconte une histoire.
Qui s'appelle comment, d'ailleurs, le bateau ?
Qui s'appelle Plastic Odyssey aussi.
Plastic Odyssey, d'accord.
Et qui, en fait, est notre point d'entrée. C'est comme ça que les médias nous connaissent. C'est comme ça qu'on est capable d'embarquer beaucoup de monde avec nous, donc des sponsors aussi. On a des médiamans, on a des reporters qui font de la photo, vidéo, qui racontent l'histoire. Donc ça, ça nous permet d'apporter du contenu aux sponsors et de financer toute cette partie expédition.
Et c'est toi qui allais convaincre les sponsors. Tu peux en citer, je sais pas si tu peux les citer, deux ou trois si, marques si, qui sont rentrées. Ou...
On a les plus gros partenaires, l'Occitane en Provence, oui. Clarins, Matmut, Crédit Agricole. Wow. On en a une vingtaine en tout.
Bravo.
Il nous manque encore 10-20% du budget, mais on a une bonne partie pour le moment.
D'accord. C'est quoi, tu peux dire le budget global d'une telle opération ?
Le budget global sur un projet là, qui dure 6 ans, c'est environ 12 millions d'euros.
Quand même. Ouais. Et qui est sponsorisé par du privé en priorité, ou tu as un peu de public qui peut rentrer là-dedans quand même ?
Alors, on n'a pas trop de public, parce que c'est vrai que c'est un modèle...
En t'écoutant.
C'est vrai que c'est dommage, et à chaque fois, personne ne comprend pourquoi, mais on ne rentre pas trop dans les cases, parce qu'on est sur un modèle sponsor, donc plutôt communication.
D'accord.
Donc on rentre pas trop dans les cases.
Pourtant, c'est à t'écouter, c'est vraiment d'utilité publique, et un projet comme ça, parfois, peut valoir beaucoup plus qu'un simple discours politique, je dirais.
Ouais, c'est sûr. Mais c'est vrai que c'est toujours difficile d'avoir...
D'embarquer les bonnes structures.
C'est ça, quand on est un peu hybride comme ça, on est une structure, on a plusieurs structures, on a deux associations, une entreprise.
Il faut rentrer dans les canaux d'organisation. Il te manque quelle partie du budget pour tout lancer là, 20 pour...
Là, il nous manque un peu plus de 500 000 euros par an.
D'accord. Donc, je veux dire, il te manque 20-30% du budget global. Donc, ça va. Ouais. Donc, là, tu peux quand même lancer la prod.
Là, on lance l'expédition. D'accord.
Qui démarrera quel jour exactement ?
Qui démarre fin septembre. On n'a pas encore la date exacte du lancement. On va faire un gros événement à Marseille. Et donc, fin septembre, on lance l'expédition. Et donc, on va pouvoir commencer les premières escales. Il faut qu'on trouve pour la fin de l'expédition les derniers sponsors. Mais...
Mmh. Alors, ça amène sur l'Entertainment Lab et nous, notre vision des contenus. Parce que c'est vrai qu'un projet comme ça, forcément, moi, je réfléchis en termes de contenu. Donc, beaucoup de vidéos. Tu peux peut-être en parler. Je sais que toi, tu as déjà eu une bonne assise médiatique et tout ça. Mais est-ce que tu peux parler de cet aspect lié au sponsoring sur le channel YouTube, les réseaux sociaux, la création des contenus ? Comment tu vois tout ça et en quoi tu crois, et peut-être quelles retombées tu vois aussi du digital et des contenus là-dessus ?
C'est vrai que c'est quand même le cœur de notre activité, enfin en tout cas du modèle économique de l'expédition. Pas forcément la finalité, mais c'est le modèle économique. Donc on a quasiment une agence de com en interne.
Ah oui, intégrée.
Intégrée avec la création de contenu. Pour l'instant, l'expédition n'a pas démarré, mais... L'objectif, c'est d'embarquer des journalistes et des reporters qui vont créer en permanence du contenu. D'accord. Des articles, photos, vidéos pour alimenter les entreprises qui nous accompagnent, les sponsors et aussi la presse. Mmh. Et finalement, on commence à être de plus en plus présents sur les réseaux, même si c'est vrai que tant que l'expédition n'est pas partie, il n'y a pas grand-chose à suivre pour le moment, à part le chantier. Mais ça va, donc ça va monter en puissance. Et donc pareil, web-série, on va pouvoir suivre le bateau sur une carte.
L'immersif, du live.
Ouais, c'est ça.
Et en RP, toi tu fais ça en autonome ou tu as une agence pour aller embarquer les journalistes ? Parce que là, j'imagine que vous allez pouvoir avoir les grands JT et tout ça en septembre. Comment tu travailles cet aspect un peu
Alors, c'est vrai que c'était junket, assez, comme diraient les Américains. On va dire, pour l'instant, c'était assez naturel. On n'a pas forcément eu à chercher.
Vu le sujet qui plaît beaucoup. Oui, c'est un sujet fort.
Donc là, avec le simple fait d'avoir le bateau, tout le monde a envie de venir. Tous les médias.
Dès que tu auras la date, normalement, tu vas avoir un TF1, France 2 qui vont
venir.
On
a déjà fait à peu près tous les
plateaux.
Tous les médias.
T'as fait quoi en émission marquante, toi ?
Alors, on n'a pas fait énormément de plateaux, un peu de JT. On a fait 20 heures de TF1 plusieurs fois, mais 28 minutes aussi, on avait fait sur Arte.
On a parlé, j'imagine, à Hugo Clément, qui est un peu le journaliste très engagé.
On l'a rencontré.
Il
va venir sur le bateau, je pense. Mmh. Et donc en tout, on a une grosse audience internationale maintenant. On a une RP aux États-Unis quand même pour la presse US. On a fait Forbes US, National Geographic en Russie. On a eu des grands journaux au Japon. Enfin, on a eu beaucoup une grosse couverture média, mais vraiment sans forcément avoir besoin de faire des RP. C'est ça qui est assez fou.
D'accord. Toi, t'es très connecté, très visible. T'as c'est déjà les grosses communautés. T'es comment, tu peux dire, entre tes Insta, tes Facebook, tout
ça ? On n'a pas énorme en réseaux sociaux. On doit avoir 10, 12 000 par réseau. Donc,
ce qui est déjà bien, mais c'est du taf de le faire évoluer, quoi.
On n'a pas trop mis l'accent là-dessus, puisque notre cible, c'était surtout les corporates, les sponsors, et donc beaucoup en interne, externe, mais c'est finalement les sponsors qui s'emparent du sujet et qui communiquent, et en interne pour les collaborateurs. Et ça marche bien, on peut faire des événements sur le bateau, on peut vraiment, et on sent qu'il y a cette motivation-là, et tout le monde a envie de suivre l'expédition. Mmh. Mais effectivement, il va falloir qu'on monte aussi en puissance sur les réseaux parce que c'est important.
L'engagement des marques, on sait que c'est un point qui devient de plus en plus important. Bah là, il y a la preuve, tu as quand même pas mal de marques qui vous ont suivi. Comment tu vois ça aussi dans la promesse et la raison d'être d'une marque, de pouvoir s'associer à ce type de projet?
Bah, j'ai vraiment l'impression que c'est marrant, hein, parce que quand on a commencé il y a 5 ans, c'était le début, et ça a beaucoup évolué, et les marques sont de plus en plus concernées et ont de plus en plus envie de faire, et pas uniquement de s'associer pour mettre un logo sur le bateau, de dire regardez, on accompagne un projet, mais de faire aussi eux-mêmes, et finalement de se servir de ce projet comme un fil rouge qui va accompagner la transition, qui va accompagner la stratégie de l'entreprise et motiver les équipes. C'est plus comme ça qu'on travaille.
Peut un peu cimenter la communication interne et le mouvement des équipes internes.
Ou externe. L'Occitane, ils ont une grosse stratégie pour réduire le plastique, pour récupérer des emballages usagés. Et ils se servent finalement de cet accompagnement en disant, regardez, voilà la stratégie, voilà ce qu'on fait. Et en plus, on accompagne Plastic Odyssey. Donc ça crée du lien. Et ça permet de rendre cohérent un peu toute cette stratégie qui peut paraître un peu pas forcément très motivante. Okay.
En termes de format, donc c'est vrai que tu es sur des thèmes aussi qui ont, je trouve, lancé des œuvres intéressantes. Bon, il y a le film Demain, tu l'as dû le voir, j'imagine, de Mélanie Laurent et Cyril Dion sur toutes les initiatives engagées. Ça a dû te toucher ce documentaire, non?
Ouais, il est hyper enthousiasmant. C'est vrai qu'il y a beaucoup de choses que je connaissais aussi parce que je gravite dans ce milieu-là.
T'avais vu déjà un peu certains des spots où ils allaient dans le documentaire?
Je connaissais pas mal d'initiatives et c'est toujours bien de pouvoir embarquer plus de monde parce que c'est sûr qu'on parle beaucoup des problèmes mais pas assez des solutions et donc c'est un peu déprimant hein, si on parle uniquement des problèmes alors qu'il n'y a pas de solution en face.
Dans le cerveau de Bill Gates, tu l'avais vu aussi le docu sur Netflix?
J'ai vu aussi, ouais.
C'était assez impressionnant aussi, je trouvais, tout ce qui menait en Afrique. C'est intéressant. C'était assez important. Et puis après, il y a la Don't Look Up, parce qu'on en a beaucoup parlé avec... on a reçu Antoine Poincaré d'AXA Climate, qui justement parlait de comment il va évangéliser dans les entreprises. Ça, c'est un point important. Et puis, je pensais à Jacques Perrin, parce qu'on en a parlé avant que ça démarre le podcast, mais c'est vrai que c'était un grand producteur qui a fait quand même Le Peuple Migrateur, qui a fait Océan, et donc qui, je pense, a toujours eu à cœur de valoriser ça dans les films, les documentaires. Donc, je trouve, je ne sais pas ce que tu en penses, mais je trouve que c'est des formats qui sont particulièrement adaptés à ce style de projet.
On travaille avec plusieurs boîtes de production et on a comme objectif de faire du docu. On a signé un premier docu télé et l'objectif c'est d'en faire tout au long de l'expédition puisque c'est vrai que c'est très visuel et ça raconte une histoire donc ça se prête bien pour le docu.
Toi en termes de goût, on arrive sur la fin du podcast. Simon, le dans tes goûts personnels sur l'entertainment, ça peut être musique, ciné ou même gaming. C'est quoi les choses qui toi te divertissent en termes de création ou... Ça peut être des œuvres, des titres, des artistes ou...
Ouais, j'écoute pas mal de musique, un peu de tout genre, et j'avoue pas mal de docu. Je prends moins le temps, même si j'aime bien aller au ciné, regarder les films. J'adore apprendre, et donc je regarde quand même beaucoup de documentaires aussi.
D'accord. Sur les plateformes, beaucoup.
Sur les plateformes, forcément. Pas mal. C'est vrai que j'aime bien les formats. Netflix, c'est vrai qu'ils sont quand même très bons en termes de entertainment, je trouve, pour parler de sujets et faire passer des messages. Et c'est des bonnes manières de, je pense, de transmettre.
Ton regard, tu restes optimiste sur cette cause environnementale ou quel est ton regard, toi qui as vu ça quand même de l'intérieur? Tu vas aller dans toutes ces villes où bon, c'est un peu difficile, mais toi, t'es quand même optimiste. Tu penses que la planète peut y arriver ou quelle est ta vision là-dessus?
C'est sûr que j'ai toujours plutôt envie d'être optimiste. Après, c'est sûr qu'on va...
Il y a du taf, quoi.
Il va y avoir des changements, ça, c'est sûr. On va pas pouvoir conserver ces modes de vie-là. De fait, le monde va changer, notre environnement va changer. Donc, il va falloir s'adapter beaucoup. Mais je vois que ça s'accélère quand même. En 5 ans, les prises de conscience sont complètement accélérées, les mentalités ont changé.
De ta génération, de légende aussi, de la nouvelle génération qui sont beaucoup plus sensibilisées à ça.
Oui, c'est sûr.
Le conseil que tu donnerais à un ou une jeune qui veut se lancer soit dans des projets à impact sociétal comme tu as fait, ou même pourquoi pas la navigation, parce que je sais que c'est quelque chose où il faut être très, très tenace. Donc peut-être ce que tu peux donner en conseil là-dessus.
Moi, ce que je retiens un peu tous les jours, ce que m'a dit Jean-Louis Etienne, qui est un grand
navigateur
que je vois assez régulièrement, et lui, sa punchline, il me dit il faut tout le temps persévérer. Il n'y a que ça, finalement, qui fait la différence entre quelqu'un qui y arrive et quelqu'un qui n'y arrive pas. C'est la persévérance. Et c'est vrai que depuis que j'ai commencé un peu naïvement à réfléchir et à faire ce projet, on a eu tellement de bâtons dans les roues et de galères que il faut s'accrocher, il faut pas trop réfléchir, il faut foncer, il faut y aller et il faut rien lâcher. Et c'est la seule manière de réussir finalement. C'est
cet esprit combatif qui est important évidemment dans tout métier. Le plus dur, c'était d'embarquer les sponsors. C'était ça où il y a eu beaucoup de portes un peu fermées et tout ça.
C'est vraiment pas simple.
Le financement, c'est toujours un peu le nerf de la guerre sur ce type de projet.
C'est pas simple, et puis après le projet en lui-même est très ambitieux, donc il y a plein de problèmes rien que sur le bateau. Recycler un vieux bateau, on n'avait pas du tout imaginé à quel point ça allait être compliqué. Et donc il y a plein de choses finalement qu'on se rend compte au fur et à mesure. Mais il ne faut pas se poser les questions trop tôt, parce que si on se dit il peut m'arriver ci, il peut m'arriver ça, on ne fait jamais rien. Donc il faut commencer sans trop se poser de questions et ne rien lâcher en se disant que dans tous les cas ça va être compliqué, quoi qu'on fasse. C'est jamais simple, hein. Il y a toujours l'Instagram effect, on a l'impression que tout est beau et que tout est facile. C'est jamais facile pour personne, et donc il faut rien lâcher, ça c'est...
Pour finir, juste quand même, je rebondis parce que tu as parlé de Cousteau. C'est une figure, toi, que tu trouves très marquante. Et est-ce que ça peut arriver des nouveaux Cousteau aujourd'hui? Pourquoi finalement, peut-être on entend moins des nouveaux Cousteau aujourd'hui?
C'est vrai qu'on en parlait il n'y a pas très longtemps, en me disant il manque des figures comme ça. C'est sûr qu'il était assez controversé, critiqué, mais il a quand même fait rêver des générations entières, fait découvrir un milieu qui n'était pas connu, l'océan. Et j'espère qu'on pourra un peu à notre manière aussi contribuer à montrer peut-être que c'est essentiel de les préserver maintenant, ces océans, maintenant qu'on les connaît, qu'on les a vus, qu'il faut les préserver. Et j'espère qu'on pourra contribuer avec cette expédition à faire rêver et à embarquer des nouvelles générations.
Bon, bah tu es peut-être le Cousteau 3.0, on va voir.
Ouais, c'est...
en tout cas, bonne chance pour tout ton projet. Et c'était un plaisir de t'accueillir, Simon, pour l'Entertainment Lab.
Merci beaucoup.
Pour ceux qui sont encore avec nous, merci de nous avoir écoutés. Pensez à aller mettre une note au podcast dans la section notes et avis sur Apple Podcasts. Cela nous ferait énormément plaisir et nous permettrait de continuer à faire grandir ce podcast consacré au Brain Entertainment. À bientôt pour un nouvel épisode.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.